Et sur Radio Shalom, nous sommes en ligne et en direct depuis Israël avec Yigal Palmor. Bonsoir Yigal.
Bonsoir Pierre.
Yigal Palmor, vous êtes ancien diplomate israélien. Alors on va commencer à parler de politique intérieure en Israël avec ces révélations de la presse israélienne qui font grand bruit aujourd'hui en Israël. Des révélations qui concernent des revendications mises en avant par un parti politique israélien, un parti ultra-orthodoxe, celui du parti judaïsme unifié de la Torah. Parmi ces revendications, ce parti veut voir figurer l'inclusion d'études talmudiques dans les programmes scolaires des établissements laïcs, la possibilité pour chacun d'être inhumé à même le sol, l'arrêt des centrales électriques pendant Shabbat et la non-mixité dans les plages publiques en Israël. Autant dire que ces revendications remettent un peu à mal le fameux statu quo entre laïc et religieux en Israël.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, d'autant plus que certaines de ces exigences sont totalement farfelues. On ne comprend vraiment pas d'où ça vient. Par exemple, exiger que l'État finance des institutions rabbiniques qui puissent fournir des réponses aux questions concernant la halakha, la loi religieuse. Non seulement c'est déjà fait, cela s'appelle le grand rabbinat, et il y a un grand rabbin dans chaque ville, il y a le grand rabbinat du pays, et il y a un grand rabbin dans chaque ville, dans chaque quartier, en fait deux, hein, parce qu'il y a l'Ashkenaz et le Sépharad. Donc les institutions financées par l'État pour répondre aux questions halakhiques ne manquent pas. Non seulement cela existe déjà, mais on se demande à quoi correspond le budget que ce parti voudrait destiner à ce genre d'institution complètement inutile, puisqu'existant déjà. Après, les autres exigences, bon, on va pas les passer l'une après l'autre. L'arrêt de toute production d'électricité, le Shabbat, on croit rêver, c'est-à-dire que même dans un dessin animé, on ne pourrait pas imaginer ce genre de fantaisie. C'est vrai que Benjamin Netanyahu a déjà déclaré que cela ne sera jamais accepté. Israël ne sera pas un pays géré par la halakha et personne n'arrêtera la fabrication de l'électricité pendant Shabbat. Mais le fait que ces exigences aient été mises sur la table signifie que ce parti se sent le vent en poupe. Il se sent permis et légitimé de faire ce genre de demandes, de les rendre publiques, et de créer un débat autour de ce genre de questions. Parce que maintenant, les gens vont discuter pour ou contre l'électricité le Shabbat, comme si c'était une question légitime. Pour ou contre les autres exigences, comme s'ils étaient légitimes. Et c'est ça qui est grave. Benjamin Netanyahu pourrait, sans doute, s'il devenait Premier ministre prochainement, il pourrait ne pas accéder à ces demandes. Bien sûr, il en a l'autorité et il vient de le promettre. Maintenant, allez savoir si dans une certaine circonstance politique, il ne sera pas sous pression par ce parti et il cédera à ce genre d'exigence une fois que le sujet ait été normalisé par le débat public et le débat politique au cours de ces discussions sur la constitution de la nouvelle coalition.
Alors ça c'est pour un parti ultra-orthodoxe avec des revendications religieuses. Il y a un nouveau projet de loi en Israël qui fait aussi débat en ce moment et qui vise à mettre fin à l'interdiction faite aux Juifs d'accéder accéder aux terres dans les territoires qui ont été transférés à l'autorité palestinienne en 2005. Ce sont des députés qui veulent mettre fin à cette interdiction qu'on appelle le plan de désengagement. Ce projet de loi veut abroger, alors pour être très précis, les sections 23 à 30B de la loi d'application sur le plan de désengagement de 2005.
Oui, en fait, ils veulent passer à la corbeille le plan de désengagement d'Ariel Sharon datant de 2005, en vertu duquel Israël s'est retiré de Gaza et d'un morceau de territoire dans le nord de la Samarie. Si cette loi a été abrogée, en fait, ce n'est pas ce petit bout de territoire dans le nord de la Samarie qui est visé. Il est visé, lui aussi, bien entendu, c'est le prétexte. En fait, le grand projet de ceux qui ont pris l'initiative de déposer ce projet de loi, c'est de légitimer l'exigence de retourner à Gaza. Cela se dit en ce moment en sourdine, mais cela deviendra une exigence exprimée haut et fort une fois que le projet de loi serait voté. Alors, je ne sais pas s'il sera voté, mais vous imaginez bien ce que pourrait signifier une déclaration d'intention de la part de la coalition du gouvernement en Israël pour revenir à Gaza, pour se réinstaller à Gaza, comme si de rien n'était. Je vous laisse imaginer les conséquences.
Oui. Benjamin Netanyahou aura vraisemblablement fort affaire avec cette coalition, bien qu'il promette de tenir bon. On voit bien que les exigences, en tout cas des partenaires, de ses partenaires au sein de cette coalition, sont de plus en plus, je dirais, incroyables. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. On va dire un mot de la diplomatie avec vous. On a appris hier que le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a l'intention de se rendre en Israël pour le 75e anniversaire de l'indépendance de l'État d'Israël. Il qualifie d'ailleurs ce 75e anniversaire d'historique. Il salue entre autres l'aspect des avancées technologiques, biomédicales des Israéliens, d'ailleurs, dont il souhaiterait fortement s'inspirer. Il faut rappeler aussi que, historiquement, l'Angleterre, le Royaume-Uni, était mandataire de la Palestine avant 1948. En fait, elle est mandataire depuis la fin de la Première Guerre mondiale.
Oui, en fait, il faut dire que le texte du mandat international octroyé à la Grande-Bretagne par la Société des Nations date d'il y a exactement 100 ans. C'était en 1922, très concrètement. En fait, en décembre 1922, que ce texte est soumis au Parlement britannique pour son approbation et pour sa ratification. Donc, on peut saluer au passage les 100 ans du mandat britannique. Ceci dit, la reine d'Angleterre n'a jamais rendu visite à Israël. Il n'y a jamais eu de visite d'État au niveau de chef d'État de la part de la Grande-Bretagne en Israël. Il y a eu une visite du président Herzog, pas l'actuel, mais son père, en Grande-Bretagne, mais jamais de réciprocité. Ni la reine, ni évidemment le roi Charles, ne se sont rendus en Israël en visite officielle. Et les premiers ministres britanniques s'étaient fait très rares, eux aussi. Je ne me souviens pas de la dernière fois où on a pu accueillir un premier ministre ou une première ministre britannique en Israël. Ça date d'il y a très longtemps. Donc, une visite de Rishi Sunak, Premier ministre britannique, ça sera effectivement peut-être pas une grande première, mais une occasion rare de renouer les bons liens au plus haut niveau de l'État avec la Grande-Bretagne, ancienne puissance mandataire. Et j'ajouterais, avec peut-être un brin d'ironie, que Rishi Sunak est le premier ministre britannique à venir en Israël depuis des décennies, peut-être parce que lui n'a aucun complexe colonial par rapport à ce pays.
Yigal Palmor, merci d'avoir été en direct avec nous sur Radio Shalom, vous qui êtes ancien diplomate israélien. Merci, bonsoir.
Bonsoir, Pierre.